vous assomme de chiffres, mais soit dit en passant, en France, on produit moins de 1% du pétrole qu'on consomme et moins de 3% du gaz qu'on consomme. Hein, donc les énergies fossiles en France, c'est totalement importé. Hein, totalement importé, on n'a rien. Par contre, l'Europe a encore beaucoup de charbon, notamment en Pologne et en Allemagne. Hein, donc c'est... La Russie, vous voyez, a un peu de pétrole, beaucoup de gaz. La Russie a les premières réserves de gaz au monde. Hein. Ça explique aussi ça un peu les hésitations de Poutine en ce qui concerne Kyoto. Et puis, encore plus de charbon. Alors, oui, le Moyen-Orient se distingue des autres zones par le fait qu'ils ont beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz et quasiment pas de charbon. Hein. Ce qui nous explique aussi que le pétrole a éventuellement des problèmes géopolitiques en germe, parce qu'il est essentiellement consommé là où il n'est pas produit. Enfin, je veux dire, que vous avez les consommateurs qui ne sont pas là où sont les producteurs. L'Afrique a encore du charbon et la zone Asie-Pacifique a un peu de pétrole, un peu de gaz et énormément de charbon. Donc le charbon, il y en a partout. Avec le charbon, vous faites ce que vous voulez. Vous faites avancer des avions, des voitures, etc. Les nazis l'ont fait pendant la guerre et l'histoire a montré que ça avait très bien marché. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient leur livrer du pétrole. Donc l'Allemagne a liquéfié du charbon pendant la guerre. Ça marche très bien. Les Sud-Africains ont liquéfié du charbon pendant qu'ils étaient sous embargo. Ça marche très bien. Donc avec du charbon, vous faites avancer les voitures, vous faites tourner les usines, parce que vous faites de la carbochimie, qui a souvent du reste précédé la pétrochimie pour beaucoup d'applications. Donc vous faites exactement ce que vous voulez. Et malheureusement, si on ne taxe pas volontairement les émissions de CO2, j'y reviendrai après, la première tentation des nations industrialisées face au manque de pétrole ne sera absolument pas de se tourner vers les renouvelables, qui physiquement ne pourront absolument pas suivre au même niveau d'approvisionnement, ça sera de se tourner vers le charbon. On n'en parle pas du charbon parce que en France les journalistes ont oublié qu'on en avait, parce qu'on n'a plus de mines, parce que etc. C'est l'énergie d'avenir, malheureusement. C'est l'énergie d'avenir. Hein. C'est absolument pas les éoliennes l'énergie d'avenir, c'est le charbon. Vous regardez les programmes de recherche aux États-Unis, charbon. Vous regardez les programmes de recherche de la Commission européenne, charbon. Vous en avez partout du charbon actuellement dans les programmes de recherche. Hein. Donc le gros défi après les soubresauts que provoqueront la flambée des prix du pétrole, qui vont vraisemblablement engendrer des tensions sociales qui pousseront les gens à parer au plus pressé, donc seront tentés de se reporter sur le charbon, eh bien le risque derrière le pétrole, il est de se reporter sur le charbon. Donc le risque sur le climat n'est pas du tout évacué parce qu'on va avoir des problèmes sur le pétrole dans les années qui viennent. Dès à présent, le charbon fait jeu égal avec le pétrole dans les émissions de CO2, quasiment. Je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est 40% de la production électrique mondiale. Hein, les deux tiers de dans l'OCDE, c'est à peu près un tiers. En Europe, c'est à peu près pareil. Donc vous avez le charbon, c'est déjà quelque chose. Vous voyez aussi que le gaz n'est pas propre du point de vue du climat. Alors, on va recommencer notre petit jeu qui est quand ou plus tard est-ce que toute cette affaire s'arrête. Alors je vous ai mis là un certain nombre de ressources qui servent à faire de l'énergie aujourd'hui, non renouvelables, charbon, gaz, pétrole, autre forme de pétrole et uranium-235. Alors, le charbon et la lignite, vous voyez que c'est le gros paquet des énergies fossiles. L'uranium, je l'ai simplement mis pour mémoire, simplement pour montrer que, on en discutera probablement après, du nucléaire. Le gros problème pour moi de la filière actuelle, il n'est pas sa dangerosité, on pourra longuement en parler, il est dans la ressource, qui n'est pas si importante que ça. C'est un problème qui s'évacue avec d'autres filières, mais la filière qu'on utilise actuellement, un de ses inconvénients pour moi, c'est la question de la ressource. Vous avez donc les énergies ici carbonées, on va dire, et vous voyez que l'essentiel c'est charbon. Alors on va se livrer à un petit calcul, qui est le suivant. Sur les 30 dernières années, la consommation d'énergie fossile a augmenté de 2% par an. Alors certains d'entre vous savent probablement qu'un truc qui augmente de X% par an, tous les ans, s'appelle une exponentielle. C'est pas une droite, c'est un machin qui grimpe très très vite. Je regarde au bout de combien de temps est-ce qu'avec une consommation d'énergie fossile qui croît de 2% par an, j'ai vidé tous mes tiroirs de gaz, de charbon, de pétrole. Et quand je dis tous mes tiroirs, c'est la barre rouge plus la barre jaune. Donc c'est à la fois les réserves prouvées et tout ce qui n'est pas prouvé, c'est-à-dire on sait que par le calcul ou parce qu'on a déjà fait des trous, etc., que c'est dans le sol, mais aujourd'hui on ne signe pas « je suis capable d'extraire tant ». Mais on l'approche par le calcul et en ordre de grandeur, on sait que c'est à peu près ça. La réponse, c'est à peu près un siècle. En d'autres termes, vous grattez tout ce que vous avez à votre disposition comme fond de tiroir en gaz, en charbon, en pétrole, et ça tient pendant un siècle. Pas plus. Comme bien évidemment, aucune consommation d'une ressource non renouvelable ne passe par un maximum pour devenir brutalement nulle derrière. C'est pas comme ça que ça marche, comme je vous disais tout à l'heure, ça passe par un maximum, puis ça décroît à un temps vers zéro. C'est-à-dire que le maximum de la consommation d'énergie fossile de l'humanité, c'est pas déraisonnable d'imaginer qu'il sera dans le courant du 21e siècle. Hein ? C'est pas déraisonnable. Ce qui veut dire que l'hypothèse que je vous ai donnée tout à l'heure sur les émissions de CO2, elle n'est pas si stupide que ça. Et bien évidemment, si on fait un truc comme ça, on met dans l'atmosphère bien plus que ce que vous avez dans le scénario le plus noir sur les émissions de gaz à effet de serre que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est si on se reporte sur le charbon à grande échelle, si c'est pas autre chose qui s'en charge, au moins la perturbation climatique se chargera probablement de très sérieusement réguler notre population. Alors, vous avez actuellement, on va faire un petit zoom sur les émissions. Actuellement, si on prend les émissions de CO2 dans le monde, un tiers vient de la production d'électricité, je réinsite, 40% fait au charbon, 20% au gaz, quasiment plus au pétrole. Alors ça c'est pareil, il y a un mythe qui a la peau dure, qui est de croire aujourd'hui que le nucléaire permet de remplacer du pétrole, c'est faux. Il permet de remplacer du gaz et du charbon, ce qui pour moi est une excellente idée, mais il ne permet pas de remplacer du pétrole. Donc comme M. Sarkozy dit que ça permet de remplacer du pétrole, non c'est pas vrai, il y a moins de 5% de la production électrique mondiale qui est encore faite avec des produits pétroliers. Vous avez un quart des émissions de CO2, c'est les procédés industriels, et là-dedans, ce qui vaut très cher, c'est quand vous utilisez des grosses sources de chaleur. Donc c'est de faire des matériaux, du verre, du ciment, du plastique, de l'acier, etc. Après, transformer l'acier en boulon de 12, ou le nylon en banylon, comme je disais tout à l'heure, ça vaut proportionnellement beaucoup moins cher. Vous avez un quart du problème qui est dans le transport. Donc vous voyez que c'est un problème important, ça n'est pas le seul problème. Dans ce découpage-là, c'est même pas le premier. Et enfin, vous avez le reste dans lequel vous avez en particulier l'agriculture, mais qui n'est pas un très gros consommateur direct d'énergie fossile. Mais par contre, ça a remplacé beaucoup de monde. Et aussi le chauffage des bâtiments. Alors, si je regarde maintenant, je rajoute les gaz agricoles, CH4 et N2O. Et puis je fais un tout petit traitement qui est de dire l'électricité, je ne la fais pas pour le plaisir de la faire, je la fais parce que les gens la consomment. Donc je vais imputer les émissions de l'électricité au premier secteur consommateur. Les industriels qui achètent de l'électricité, je leur impute la consommation. Les bâtiments qui en consomment, j'impute la consommation. Et bien vous vous retrouvez avec, finalement, c'est d'où sort mon problème du changement climatique. C'est un peu à ça que répond, enfin c'est à cette question que ce camembert répond. Hein. Et bien vous voyez qu'à 5% ça vient des raffineries, bon, parce que je ne les ai pas imputées au transport, j'aurais pu. À un quart ça vient de l'industrie. Donc l'industrie fait un quart des émissions. Si vous comptez à la fois ces émissions directes et ces émissions indirectes dues à l'électricité qu'elle consomme. Vous avez 16 plus, allez on va rajouter cela, à peu près 20% des émissions qui sont dues au transport. Encore une fois, c'est un poste important, c'est pas le premier. Vous avez un petit quart qui est dû aux bâtiments. Donc les bâtiments, là c'est pareil, on compte à la fois la consommation directe d'énergie, les consommations de combustibles fossiles en direct pour le chauffage, l'eau chaude, et la production de l'électricité qui est consommée dans les bâtiments. En France, par exemple, alors pas notre électricité émet peu de CO2, mais en France, 45% de l'énergie est consommée par des bâtiments, devant l'industrie. Hein. Bâtiments consomment plus d'énergie que l'industrie en France. Et enfin, vous avez un quart du problème qui vient de l'agriculture, donc le fait de manger. Donc vous voyez qu'on a un problème qui s'est immiscé d'une certaine manière dans tout ce qui fait notre quotidien. C'est une autre manière de dire ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les actes de la vie courante, hein, les 500 kilos équivalent carbone qui sont atteints dès que vous prenez une fois l'avion, que vous construisez une chambre à coucher, que vous chauffez une maison, etc. Ça s'est mis dans absolument tous nos actes de la vie courante. C'est pas du tout un problème qu'on peut régler comme celui des CFC où il y a un produit qui pose problème, un usage qui pose problème. Alors on prend tous les gens qui posent problème, on les met autour d'une table, on leur dit écoutez vous êtes des grands garçons, maintenant on va pas foutre la couche d'ozone en l'air pour 2 ou 3 milliards de chiffre d'affaires dans le monde. On s'arrange. Là, il ne s'agit pas de 3 milliards de chiffre d'affaires dans le monde, il s'agit de la totalité du PIB mondial. Hein. On n'est plus du tout en train de parler de la même chose. Il s'agit des usages quotidiens d'à peu près la totalité de l'humanité. Mes esclaves énergétiques dont je vous parlais tout à l'heure, il faut savoir qu'en Indien, on a encore 10 à 20 à sa disposition. Hein. Un Indien qui vit 3 fois plus longtemps qu'un paysan d'Henri IV. Hein. Donc ça s'est immiscé absolument partout. Hein. Il n'y a pas un usage, un problème sur lequel on puisse dire... Très douloureux, mais on fait une croix là-dessus, et puis tout le reste est réglé. En France, je ne commente pas dans le détail, c'est pareil, vous en avez partout. Ça, c'est juste pour rappeler que la France est un pays majoritairement fossile, comme toutes les nations industrialisées, Le fait d'avoir un parc nucléaire important, ça joue sur 20% de la consommation d'électricité, d'énergie finale, hein, 40% en primaire, mais même en primaire, on est encore un pays majoritairement fossile. Hein. Contrairement à, là aussi, ce qu'on peut lire souvent dans le journal, la première source d'énergie consommée en France n'est pas du tout le nucléaire, ça reste le pétrole. Hein. Donc on n'est pas du tout à l'abri des problèmes qui vont être liés au soubresaut sur le prix du pétrole dans les années à venir. On est un peu moins exposé, notamment parce qu'en France on ne fait pas d'électricité au gaz et que le prix du gaz suit souvent le prix du pétrole, mais on n'est pas à l'abri pour autant. Hein. On l'est d'autant moins que les économies sont très imbriquées. On revient à l'alimentation, je sais que c'est un sujet important ici. Voilà un petit calcul que j'ai eu à faire pour l'Institut français de l'environnement sur la quantité de gaz à effet de serre liée à la production d'un kilo de nourriture. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire les intitulés, et je vous ai mis à droite comme étalon de référence 100 km en voiture. Donc vous voyez 100 km en voiture sur cette échelle là, ça vous monte à 6, c'est des kilos équivalents carbone, hein. Et bien vous voyez que la production d'un kilo de veau, c'est 200 km en voiture. La production d'un kilo d'agneau, c'est de l'ordre de 180-160, etc. Et vous voyez un kilo de bœuf, c'est de l'ordre de 60 à 80 km en voiture. Et en fait, vous remarquez que tous les produits animaux sont sur la droite et les produits végétaux sont sur la gauche. C'est pas très étonnant. Les animaux sont des concentrateurs à végétaux. Donc, quand il vous faut quelques dizaines de kilos de céréales pour faire un kilo de bœuf, et ben vous allez retrouver très logiquement un facteur multiplicateur dans ce graphique. Ce à quoi vous rajoutez en plus les émissions liées au fait que les ruminants ruminent. Ce qui n'est pas très étonnant puisque c'est des ruminants, et vous allez les retrouver sur la partie droite du graphique avec cette partie jaune. Et là vous voyez par exemple que si vous êtes en filière bio, vous évitez, je veux dire un truc très désagréable dans cette assemblée, vous évitez les émissions de CO2 pour partie, notamment celles qui sont liées à la fabrication des engrais de synthèse, parce que c'est la première source d'émissions de CO2 dans l'agriculture, hein, devant la mécanisation. Vous évitez le N2O lié à l'épandage des engrais, mais vous empêchez pas les bêtes de ruminer, hein. Donc le système bio n'est quand même pas, c'est pas une taquinerie méchante, en fait rien n'est propre, c'est toujours la dose qui fait le poison, hein. Vous n'avez pas de système qui soit parfaitement propre d'énergie, qui soit parfaitement propre de trucs, qui soit parfaitement vert, etc. Rien n'est extensible à l'infini, c'est la limite est plus ou moins haute, mais rien n'est extensible à l'infini, hein. J'en profite aussi pour faire une incidente, mais ça c'est probablement quelque chose qu'un certain nombre de gens dans cette salle connaissent. Je ne connais pas en France un seul agronome qui soit capable de vous dessiner une agriculture propre avec autant de viande consommée par personne et par an. J'en connais pas un. Hein. C'est-à-dire que si vous demandez à un agronome de vous dire, de dire dessine-moi un mouton, et le mouton c'est le système dans lequel vous avez plus les phytosanitaires, les nitrates, l'agriculture intensive, mais vous avez toujours 100 kilos de viande par personne et par an, ben, il dit je sais pas faire. Marche pas. Hein. En fait, les calculs d'ordre de grandeur qui ont été faits, que j'ai vu publier, c'est qu'il faudrait diviser la quantité de viande consommée par personne et par an, enfin de produits animaux d'une manière générale, par 2 à 3. Et là, effectivement, vous arrivez à faire quelque chose qui est beaucoup plus doux, entre guillemets. Vous avez des émissions de gaz à effet de serre dans le tourisme, notamment dès que vous prenez l'avion. Donc, ne lui en déplaise, M. Beauvais est un gros pollueur. Parce que, là, vous voyez, par exemple, pour les vacances, j'ai pris l'exemple des vacances. C'est pas le seul, hein. En général le premier geste d'un militant du climat c'est de monter dans un avion. Vous avez ici un certain nombre d'émissions qui sont liées à un séjour de 4 personnes d'une semaine à un mois, barre du bas à la barre du haut, selon le type de séjour. Voilà, donc vous voyez que toutes les vacances ne sont pas équivalentes, question perturbation du climat, et encore une fois dès que vous montez dans un avion vous signez un gros chèque pour la perturbation future. Alors, avant d'ouvrir le débat, quelques indications d'ordre de grandeur. On peut passer des énergies fossiles aux énergies pas fossiles. Alors, dans les énergies pas fossiles, vous allez trouver deux grandes catégories, les renouvelables et, on dit souvent, le nucléaire. En fait, le nucléaire, parce que c'est pareil, vous avez plusieurs manières de l'exploiter. Vous voyez qu'au sein des énergies fossiles, vous avez un facteur 2 entre la plus propre et la plus sale pour une même quantité d'énergie libérée. Ça, c'est les émissions pour une même quantité d'énergie libérée, hein. Donc, vous voyez qu'entre le gaz et le charbon, vous avez un facteur 2. Et puis vous avez des émissions significativement plus basses pour les renouvelables, avec une exception qui est le photovoltaïque, parce que le photovoltaïque c'est de l'industrie des semi-conducteurs, donc c'est très énergivore au niveau de la fabrication, et donc ça met un certain temps à rembourser son énergie de départ, et donc ça a un contenu en carbone qui est loin d'être ridicule. Vous avez la possibilité d'utiliser des renouvelables. Alors les renouvelables, en France, elles ont une importance inversement, et dans le monde, inversement proportionnelle à leur pagination dans le journal. Les deux renouvelables les plus utilisés dans le monde, de très loin, c'est le bois et l'hydroélectricité. Hein. Il y a des limites. Le bois, ça fait de la déforestation, si vous en utilisez trop. Et en ce qui concerne l'hydroélectricité, je vais vous poser une question très irrévérencieuse. Entre le barrage des Trois Gorges, qui va créer un lac de retenue qui va être long, je ne sais plus, de 1000 ou 1500 ou 2000 km, et deux centrales nucléaires qu'on aurait pu mettre à la place, qu'est-ce qui est le plus propre ? On peut discuter. Donc l'énergie hydroélectrique, c'est toujours pareil, c'est la dose qui fait le poison. Vous faites un petit barrage sur Terre dans un coin, ça dérange personne. Actuellement, on en a 36 000. Vous triplez ça, vous quadruplez ça, vous quintuplez ça. Est-ce que c'est toujours propre ? Discute. Vous voyez que la troisième énergie renouvelable dans le monde, c'est la géothermie, etc. Et l'éolien et le photovoltaïque, vous les avez là, et Axel m'a fait un arrondi à zéro pour le photovoltaïque, tellement c'est bas. Donc vous voyez que les grosses énergies renouvelables, c'est celles dont on ne parle pas. Hein. En fait, c'est bien là qu'il y a du potentiel, si on veut faire des choses significatives plus tard, dans la biomasse, encore du potentiel dans l'hydroélectricité, dont encore une fois, on peut préférer la saleté à d'autres types de saleté. Et puis, vous en avez aussi dans la géothermie, vous avez un potentiel qui n'est pas ridicule, et vous avez quand même un potentiel significatif dans le solaire thermique, parce que là, vous avez des vitesses de diffusion qui peuvent aller très vite. L'éolien, pour des tas de raisons, je fais partie des gens qui pensent que ça ne représentera jamais grand-chose. Donc on peut en faire si ça nous amuse, mais je pense que pendant ce temps-là, essentiellement, on perd son temps. Et je suis loin d'être un adversaire des renouvelables. Simplement, il faut voir que M. Antolini est plus productif de communiqué de presse que l'ONF. Donc ça explique la hiérarchie qu'on peut trouver dans la presse française. En ce qui concerne les économies d'énergie, là aussi, je vais vous ressortir une lapalissade. C'est pas dans les petites consommations qu'on va faire les économies majeures. Hein. Si le but du jeu il est de diviser par 4 les émissions de CO2 d'un Français, c'est pas avec des ampoules basse consommation qu'on va y arriver. On peut commencer par ça, mais on peut pas s'arrêter à ça. Vous voyez là, je vous ai mis en kilowattheure la consommation d'énergie liée à un certain nombre d'actes de consommation. Alors, vous voyez, vous éclairez un logement une année, 450 kilowattheures. Vous faites fonctionner votre électroménager une année et 2600 kilowattheures. Vous fabriquez mon ordinateur, là, 3500 kWh. D'accord ? Vous prenez l'avion pour aller à New York, 6000 kWh. Vous poussez votre caddie une année à l'hypermarché, 12000 kWh. Parce que, bien évidemment, il a fallu fabriquer la paire de baskets, la console Nintendo, le surgelé emballé, etc. Tout ça, ça se fabrique, donc c'est des kWh partout. Hein. Vous faites 15000 km en voiture, vous avez à peu près consommé 15000 kWh. Il faut savoir qu'en ordre de grandeur, 1 km en voiture égale 1 kWh. D'accord, donc ça va vite, hein, ça pèse une tonne, hein, ou une tonne et demie. Vous avez chauffé votre maison une année, quelle que soit l'énergie de chauffage, gaz ou fuel, pardon, en électricité c'est la moitié, vous êtes à 18 000 kWh. Voilà, donc des gros kWh, vous en avez dans le chauffage, vous en avez dans les déplacements, vous en avez dans les achats de produits manufacturés, on ne sauvera pas le monde avec des ampoules basse consommation. Voilà, c'est un fait. Alors, on peut faire des économies d'énergie, allez-vous me dire. On va faire des frigos de plus en plus efficaces, des voitures de plus en plus efficaces, etc. C'est parfaitement vrai, on peut. Si vous prenez, vu de votre point de vue, de consommateur achetant un objet unique, vous dites, bah, c'est très simple. Les ingénieurs, comme celui qui pérore depuis une heure sur cette estrade, ils n'ont qu'à me faire un frigo qui consomme deux fois moins. Et effectivement, vous prenez un frigo de même capacité, vous êtes capable aujourd'hui de faire beaucoup moins que le frigo qu'on est en train de vendre. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne consomme pas la même chose au cours du temps. Alors par exemple, on peut demander aux ingénieurs de faire des isolants plus efficaces pour mettre sur les murs des maisons et des verres double et triple et quadruple et quintuple et sextuple vitrage, etc. Dans le même temps, en 30 ans, on a doublé le parc de résidence principale, c'est-à-dire qu'on a la surface, pardon, qu'on a doublé la surface à chauffer. Donc vous voyez bien que si on double la surface à chauffer, ce qui n'est pas une décision d'ingénieur, dans le même temps qu'on augmente l'efficacité thermique des logements, on se retrouve au final avec une consommation d'énergie, c'est à peu près ce qui s'est passé en France, qui reste constante. Or, la nature, le système Terre, plus exactement, pour ne pas employer des mots grandiloquents, se contrefout de savoir si une consommation est le fait de 15 millions d'individus très économes ou de 3 millions d'individus très gaspilleurs. Elle s'en fout, ça c'est le problème des hommes, mais c'est pas le problème du système Terre. Hein. Ce qui compte pour elle, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est la consommation globale. La consommation par personne, c'est le problème de la répartition du gâteau des hommes entre eux, mais le système planétaire s'en contrefiche. On peut aussi faire des voitures vachement plus économes, et du reste, si aujourd'hui vous faites une 2 chevaux, elle consommera beaucoup moins avec les techniques modernes que la 2 chevaux que j'avais quand j'étais jeune. Hein. Le problème, c'est que dans le même temps, il y a 2 fois plus de gens qui roulent en voiture. Et la consommation par voiture est restée à peu près constante. Et puis, vous pouvez dire, j'en reviens à mon exemple du frigo, on va me faire un frigo beaucoup plus économe. Oui, mais en 1973, il y avait 90% des gens qui avaient un frigo qui était déjà pas mal économe. En 2001, vous avez 100% des gens qui ont un frigo un peu plus économe, il est vrai. Et puis en 1973, vous aviez 10% des gens qui avaient un congélateur qui était des passoires à frigorie, 60% des gens qui ont un congélateur hyper efficace en 2001. Et puis 68% des gens qui ont un micro-ondes hyper efficace et un lave-linge qui est un monument d'économie et un sèche-linge qui est tout autant un monument d'économie et un lave-vaisselle qui aurait probablement sa place sur le podium, etc. Et si vous faites le résultat de tous ces monuments d'économie, vous avez ça. Donc la technique, c'est ça la conclusion de ce petit intermède, ne fait rien tant qu'on ne touche pas à une chose, qui est le prix de l'énergie. Tant qu'on ne touche pas au prix de l'énergie, la technique ne sert pas à consommer moins d'énergie. Ça ne marche pas. La consommation de carburant routier a doublé en France depuis 1973. La consommation d'électricité dans les logements hors chauffage a été multipliée par 4, enfin dans les logements et dans les bureaux, etc. Donc ça n'existe pas, les économies globales, à partir du moment où le prix de l'énergie ne monte pas. Et quand je dis ne monte pas, il faut qu'il monte plus vite que l'inflation et le pouvoir d'achat. Voilà. À cette condition, alors, la technique fait faire des économies d'énergie. C'est ce qu'on a vu pendant le choc après le choc pétrolier. C'est la seule chose qui marche. Le reste, ça ne marche pas. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est tentant. Je veux dire, on est tous fait pareil. On a tous envie de penser que quelque part, il y a des gens dans des labos de recherche qui s'agitent et qui vont nous faire des trucs absolument merveilleux qui nous permettront, sans nous lever de notre fauteuil, d'avoir la solution. Ça ne marche pas tant que le prix de l'énergie ne monte pas plus vite que le pouvoir d'achat. Il faut savoir, ça va peut-être vous surprendre, que le prix de l'énergie dans le budget des ménages sur les 15 dernières années a dû baisser de 20%. Le prix de l'essence aujourd'hui est beaucoup moins élevé que le prix de l'essence en 79. Certes, en euros courants, il a augmenté. Et vous, c'est ce que vous voyez. Donc vous vous dites, ça vaut vachement cher aujourd'hui, ça n'a jamais valu aussi cher. En euros courants, oui, rapporté à votre pouvoir d'achat, c'est parfaitement faux. Parce que dans le même temps, votre pouvoir d'achat a doublé. Donc aujourd'hui, et quelque chose qui va vous l'illustrer de manière très parlante, en 79, il fallait à peu près, avec une heure de SMIC, on se payait à peu près 2 litres d'essence. Aujourd'hui, avec une heure de SMIC, vous vous payez à peu près 6 litres d'essence, malgré la hausse récente. Voilà, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. L'essence vaut beaucoup moins cher aujourd'hui qu'il y a 25 ans. C'est un fait. Et du coup, on en consomme beaucoup plus. Voilà, c'est pas une surprise. Et le discours des gens qui veulent économiser l'énergie peut se résumer à une seule chose, d'une certaine manière, c'est de voter pour le premier candidat qui propose de monter les taxes plus rapidement que la hausse du pouvoir d'achat. Voilà. Et ça, ça marche très bien. Je vous signale que, encore une fois, compte tenu de ce qu'on connaît du monde qui nous entoure, refuser cette évolution-là, c'est signer pour la régulation involontaire. Voilà. C'est comme ça que se pose le problème. Est-ce qu'on peut dématérialiser l'économie ? Alors ça aussi, c'est un truc on entend souvent, on va mettre des ordinateurs, des gens, etc., machin. Marche pas. Vous voyez sur ce graphique l'évolution comparée de la quantité d'informations qui circulent sur Terre et de la quantité de marchandises qui circulent sur Terre. Ça évolue exactement de la même manière. Je vous signale que les gens qui font circuler le plus d'informations sur Terre, c'est les Américains, c'est aussi ceux qui consomment le plus d'énergie. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Enfin, je vais finir par ça. L'essentiel des émetteurs de CO2 dans le monde, et donc l'essentiel de consommateurs de combustibles fossiles, les deux se confondent, sont des démocraties. Vous savez, vous avez participé il n'y a pas longtemps à un débat démocratique, qu'en démocratie, les gouvernants ne font pas exactement ce qu'ils veulent. En démocratie, les gouvernants font ce qu'il est nécessaire pour qu'ils soient réélus. Ce qui veut dire, soit dit en passant, qu'à partir de ce simple cahier des charges des gouvernants, il en découle un certain nombre de trucs extrêmement importants. Il ne faut pas imaginer que du jour au lendemain, parce que vous avez compris comment ça marche, ils ont instantanément compris comment ça marchait aussi. Les gouvernants ne vont pas dans des conférences, ils n'ont pas le temps de se former, il faut les former avant. Une fois qu'ils sont en fonction, ils n'ont plus une minute à ça, à consacrer à ça, plus une. Donc il ne faut pas s'imaginer que, parce qu'on sait, tout d'un coup, ils se mettent à savoir. Non, en gros, ils savent ce qu'il y a dans le journal. C'est pareil. C'est pas parce que tout d'un coup on découvre l'ampleur d'un problème qu'on s'imagine que tous ses voisins ont les mêmes éléments d'appréciation du dossier. Non, c'est pas vrai. C'est tout à fait faux aussi. Et enfin, il faut pas non plus s'imaginer que les gens qui savent alimentent facilement le débat public. C'est parfaitement faux. Si je faisais le compte de tous les messages que j'ai envoyés à des journalistes, enfin j'ai pas la prétention de concourir de manière éclairée au débat public, mais d'y concourir, quelle que soit l'appréciation, oui. Je crois que je dois être à 180 ou 200. Bon. Pour autant, ça n'a pas conduit à 180 ou 200 lettres dans le courrier des lecteurs ou interviews dans le journal, ou etc. Hein. Donc il ne faut pas croire qu'une fois que quelqu'un sait quelque part, l'information circule facilement. Ce n'est pas vrai. En ce qui concerne les élus, il ne faut pas croire que les élus sont des gens qui sont des visionnaires. Ce n'est pas des visionnaires, c'est des exécuteurs testamentaires. C'est très exactement leur cahier des charges. Et c'est Tocqueville qui le disait il y a déjà un siècle et demi. Encore une fois, on ne les élit pas pour qu'ils fassent des choses qui nous déplaisent parce qu'ils auront vu beaucoup plus loin que nous. On les élit pour qu'ils suivent l'opinion de la majorité. Encore une fois, c'est très exactement ça leur cahier des charges dans une démocratie. Et en particulier, un point important, c'est que les élus ne sont pas nos psychiatres. Ils ne sont pas chargés de résoudre nos contradictions à notre place. Si on leur dit lundi faites blanc et mardi faites noir, le plus probable c'est qu'ils ne font rien du tout. Ou plus exactement, ils arbitreront en faveur de ce qu'ils pensent être la demande la plus importante. Donc si lundi on leur dit je veux pas de changement climatique et mardi on leur dit je veux pas que vous montiez les prix de l'essence, ils ne monteront pas les prix de l'essence et on aura le changement climatique. C'est très exactement comme ça que fonctionne un élu. Moi à leur place je ferais pareil et je pense que bon nombre de gens dans cette salle à leur place feraient aussi exactement pareil. S'il y avait un facteur personnel discriminant dans le fonctionnement de l'élu, vous verriez des différences extrêmement significatives de gestion de ce problème dans les diverses démocraties. Ça n'est absolument pas le cas. Ça n'est absolument pas le cas. Donc, ou bien, dès que vous êtes élu, vous devenez un abruti corrompu. Ça, c'est une possibilité A. Ou bien, c'est que le problème ne se pose pas en ces termes et que le manche n'est pas du côté des élus autant qu'on le croit. Et en tout cas, c'est ma conviction après avoir un peu fait le tour de la question. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Vous avez donc un point qui, à mon avis, est important. C'est l'information dont on dispose. Et là, on revient à ce que je disais sur les médias tout à l'heure. Et là, je vais vous donner encore un ordre de grandeur. Le fait que l'information dont on dispose soit fondamentale, et je vais vous donner un exemple tout con. Si vous ne savez pas que votre enfant a besoin de votre rein, vous n'allez sûrement pas le lui donner. Si vous le savez, vous le faites. D'accord ? Donc vous avez un comportement qui est quand même assez engageant, qui dépend au premier ordre de l'information dont vous disposez. En ce qui concerne le changement climatique, c'est pareil. L'information dont on dispose engage au premier ordre le comportement qu'on peut avoir derrière. Alors je vais vous donner quelques ordres de grandeur. Encore une fois, les conférences, ça ne change rien. Vous voyez, si je vis très vieux, que je radote souvent et que j'ai un public très nombreux, à la fin de ma vie, j'aurai causé à 200 000 personnes. Je vous rappelle qu'en France, on est 60 millions. On peut écrire un bouquin sur le climat, je peux vous donner mes relevés de droits d'auteur. J'en ai vendu quelques milliers d'exemplaires. Ça se recoupe avec la population du dessus. On peut faire un site internet, je peux aussi vous envoyer mes statistiques de consultation. C'est encore quelque chose qui se recoupe avec la population du dessus. Et puis on peut s'appeler PPDA, et là on enfonce tous les gens comme ici français en ayant 10 millions de personnes chaque soir devant le petit écran. D'accord ? Donc ce qui fait l'opinion, c'est pas les spécialistes, c'est les journalistes. Hein ? Ce qui fait l'opinion, c'est les journalistes. Et les journalistes, ce ne sont pas des relais impartiaux, ils sont comme vous et moi. Ils ont leurs critères de tri. D'abord, ils ne pourraient pas relayer tout ce qu'ils reçoivent. C'est strictement impossible. Donc, ils ont leurs critères. Un journal, c'est avant tout un centre de tri. C'est pas illégitime. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Mais il faut le savoir. Encore une fois, c'est pas illégitime. J'en ai à peu près fini avec la partie introductive. Et puis maintenant, je crois qu'il est prévu qu'on discute.